Go, go, la revue presse JB.
Bonjour, moi c'est Bruno Roca, ancien journaliste jeux vidéo, actuellement game designer, level designer et chef de projet, oui tout ça, au sein du studio Storybird. Vous êtes en train d'écouter la revue de presse JV, le podcast qui vous livre chaque semaine le meilleur de l'actu jeux vidéo, vu dans la presse spécialisée ou généraliste. Allez, c'est parti! Bonjour à toutes et tous! Quel bonheur de vous retrouver, alors un petit peu en retard effectivement, l'émission a repris une semaine plus tard que la date prévue, hein. Normalement on devait reprendre le 6 janvier, et ben on reprend le 13. Si vous me suivez sur Twitter, à Revue de Presse JV, tout collé, toi-même tu sais, et sur la page Facebook, je vous avais expliqué, et oui, on a accueilli un nouveau membre de la famille, la petite Kirby, hein, une petite chatte toute mignonne de 6 mois que nous avons donc adoptée à la SPA. Quand on nous a appelé pour aller la chercher, ça a pris du temps, il y a beaucoup de papiers à faire, etc. Bref, le planning avait été chamboulé, je n'avais pas eu le temps de faire l'édition, la première de 2020, et ben c'est celle-ci. Tout d'abord, une très bonne année à toutes et tous, que vos vœux se réalisent, la santé surtout, c'est le plus important, comme on dit. C'est un peu un gros cliché de dire cela, mais c'est important, hein. Il y a des traditions qu'il faut respecter, donc santé, bonheur et tout ce qui s'ensuit. Un bien beau programme donc pour cette première édition 2020. Je rappelle, avant toute chose aussi, vous savez, j'avais lancé fin 2019, un concours pour gagner le nouveau Rétro Laser aux éditions Omake Books. Rétro Laser, le magazine qui revient sur la pop culture du 20e siècle. Je signe un papier dedans sur les Tiny Toons avec plein de trivia, mais ça parle de jeux vidéo, ça parle de jouets, ça parle de séries, ça parle de comics, ça parle de plein de choses. Je vous avais demandé de me faire une photo illustrant le contexte dans lequel vous écoutez la revue de presse JV. J'ai reçu 3 superbes photos et je remercie les auteurs de ces photos qui m'ont vraiment fait énormément plaisir, mais je n'ai que 3 photos. Alors, vu que les audiences sont quand même, sont assez belles de la revue de presse JV, je me suis dit que 3 photos, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, on se bouge, je vous demande de m'envoyer des photos qui illustrent donc le moment où vous écoutez la revue de presse JV. Sur les réseaux sociaux, si vous ne voulez pas les mettre à vue de tout le monde, n'hésitez pas à m'envoyer ça en MP, le cas échéant, et je pense que je ferai un tirage au sort, hein, puisqu'il y en a déjà que j'arrive pas à départager. Sur les 3 que j'ai reçus, j'arrive pas à les départager, donc c'est très compliqué. Donc je ferai un tirage au sort, hein, avec le petit screenshot qui fait foi. Voilà, je compte sur vous, donc je rallonge ce concours d'une semaine, hein, le rétro laser, n'hésitez pas. Donc ce matin, on va parler de plein de choses, il va y avoir une belle brochette de news. J'ai dû égrener, hein, au niveau des news, parce que beaucoup de choses se sont passées, et malheureusement, j'ai dû faire un peu de place, hein, pour les tipeurs et pour les patrons, hein, les contributeurs de l'émission qui suivent l'évolution du sommaire au jour le jour. Vous verrez qu'il y a quelques news que j'ai dû évincer, puisqu'il s'est passé beaucoup de choses, et au bout d'un moment, l'émission ne peut pas faire 3 heures. Des sujets donc qui vont tourner principalement autour de la psychologie et l'addiction, vous verrez, deux sujets différents, hein, les deux sujets d'émission, mais qui ont un rapport, hein, des ponts sont là entre ces deux sujets, vous le verrez. Et puis sans plus tarder, ce que je vous propose donc, c'est d'attaquer avec la brochette de news. Petit récap du Pokémon Direct du 9 janvier dernier grâce au site Nintendo Différence, toujours l'excellent Nintendo Différence. Alors parler de Pokémon c'est toujours un petit peu compliqué puisque quand on est fan absolu on sait déjà tout, quand on s'en fout, on s'en fout, on n'a pas envie d'avoir non plus 36 infos sur Pokémon, et quand on est un peu entre les deux, on a envie d'avoir les infos, mais on veut pas que ça dure non plus 3 plombes. Donc c'est un peu compliqué. Bon, heureusement, Nintendo Différence est là pour m'aider. Donc c'était le premier direct, hein, de Nintendo, hein, de l'année. Ça a été diffusé donc jeudi 9 janvier dernier. Et donc ce Pokémon Direct a commencé avec l'annonce d'un remake Nintendo Switch de Pokémon Donjon Mystère, équipe de secours rouge, équipe de secours bleu, qui était sorti, donc nous rappelle Nintendo Différence, hein, respectivement sur Game Boy Advance et Nintendo DS. Remake, hein, développé par Spike Chunsoft, hein, qui sera disponible sous le nom de Pokémon Donjon Mystère Équipe de Secours DX le 6 mars prochain. Et ça, ce sera pour tout le monde, hein, ce sera mondial! La deuxième annonce importante de ce Nintendo Direct, de ce Pokémon Direct, hein, concernait le dernier épisode en date, hein, Pokémon Épée et Bouclier, puisque Game Freak prépare en ce moment un pass d'extension pour les jeux avec 2 parties qui seront disponibles plus tard dans l'année. Ce pass d'extension peut déjà être précommandé sur l'eShop au prix de 29,99€. Et en achetant le pass extension pour épée, le contenu sera compatible uniquement avec épée. Et en se procurant celui de bouclier, il sera donc compatible seulement avec bouclier. Le contenu du pass extension sera accessible avec les données de sauvegarde du jeu de base, en ayant atteint au moins les terres sauvages. Donc il y aura deux parties pour le pass d'extension, mais elles ne peuvent pas être achetées séparément, nous dit-on. La sortie de la première partie, nommée l'île solitaire de l'armure, ça c'est prévu fin juin. La deuxième est intitulée les terres enneigées de la couronne, et ce sera donc prévu cet automne. Les deux parties du pass d'extension donnent accès aussi à une toute nouvelle histoire, une zone inédite à explorer, de nouveaux et anciens Pokémon, de nouvelles tenues, des fonctionnalités supplémentaires, et encore plus, et encore plus encore. Et aussi une première mise à jour gratuite qui sera là accessible pour tout le monde, sans précommander le pass d'extension, est également arrivée au moment de ce Nintendo Direct, passant le jeu à la version 1.1.0, une mise à jour qui permet notamment de rencontrer le Ramolos de Galar, ainsi que deux nouveaux personnages du pass d'extension, Sophora dans Épée exclusivement et Saturnin dans Bouclier uniquement. Donc Game Freak, The Pokémon Company et Nintendo prévoient de sortir d'autres mises à jour gratuites qui seront disponibles lorsque les deux parties du pass d'extension arriveront. Autre annonce, le service Pokémon Home qui sera lancé à partir du mois de février. Le téléchargement sera gratuit, mais certaines fonctions nécessiteront un abonnement payant. Donc qu'est-ce que Pokémon Home ? Eh bien ce sera un service fonctionnant avec la technologie du cloud qui sera compatible avec la banque Pokémon. Le service avec abonnement payant annuel sur 3DS qui permet de gérer et transférer des Pokémon provenant des jeux X, Y, Ruby, Omega, et je vous passe la liste. Pokémon Home sera aussi compatible avec Pokémon Go, Pokémon Let's Go, Pikachu et Evoli, Pokémon Épée et Bouclier, bref, un service qui continuera de s'étendre dans le futur, ce qui signifie, nous dit Nintendo Différence, qu'il sera également disponible avec les jeux qui arriveront après Épée et Bouclier. Donc une fois accueillis dans Pokémon Home, les Pokémon pourront ensuite être transférés dans Pokémon Go, Let's Go, Pikachu, ainsi que Épée et Bouclier. Concernant les versions iOS et Android de Pokémon Home, elles auront une possibilité exclusive, échanger des Pokémon avec des amis ou d'autres personnes du monde entier depuis l'application. On nous dit que plus d'informations nous seront livrées à l'avenir. Si vous êtes fan de Pokémon, comme je disais, vous savez déjà tout ça par cœur, mais il était de mon devoir pour attaquer cette brochette de news, de vous parler de ce qui s'est dit lors de ce Pokémon Direct du 9 janvier 2020. Bon, il n'y a pas que Pokémon dans la ville, c'est passé aussi d'autres choses. On va parler de la PlayStation 5. La PlayStation 5, oui, puisque vous savez que ça, voilà, ça s'accélère, la com s'accélère. Et Jim Ryan nous dit que les plus grosses différences de la PlayStation 5 n'ont pas encore été dévoilées. C'est GameCult qui nous parle de ça. Je vais pas vous faire toutes les news sur la PS5 parce qu'on en a trop. GK nous dit que dans la foulée donc de l'annonce du logo, vous avez dû voir ça, en guise de seule croquette apéro pour le CES 2020, donc PS5, le logo qui est exactement le même qu'avant. Jim Ryan nous explique que le choix de garder la même typographie du logo, la même que pour la PS4, se justifie par un besoin de cohérence entre les plateformes. Il nous dit il faut que tout le monde puisse voir le logo et pense immédiatement de façon positive, c'est PlayStation. Oui, bon, ça, on s'y attendait. Alors vous savez, on communique encore sur le disque dur SSD, etc., etc. Il nous dit, ce fameux Jim Ryan, qu'au-delà de la surpuissance graphique, de cette puissance, toujours plus, il faut d'autres arguments. Donc avoir des temps de chargement proches de zéro est un changement majeur, nous dit-il. La 3D audio et le retour haptique de la manette sont aussi des choses qui nous étonneront, nous dit-il. Le simple fait de jouer à Gran Turismo Sport avec une manette PlayStation 5 est une expérience complètement différente, c'est ce qu'il déclare. Même si ça fonctionne, nous précise-t-il, bien avec l'ancienne manette, il est difficile d'y revenir après avoir fait l'expérience de la surface détaillée de la route via les contrôles haptiques et les gâchettes adaptives, nous dit le patron. Mais il ajoute, vous savez, il reste encore des éléments uniques qui sépareront la PS5 des précédentes consoles. Les plus grosses différences n'ont pas encore été annoncées. Donc on attendra d'en savoir plus, mais la guerre de com continue entre Xbox et PlayStation, et c'est assez fun à suivre, vous en conviendrez en tout cas, moi je trouve ça toujours très intéressant, puisqu'on le sait, parfois le duel peut se jouer bien avant la sortie des consoles. Tencent entre au capital de Platinum Games, mes petits chouchous de Platinum Games, qui rêvent, vous le savez, de publier ses propres jeux. Donc Platinum Games a annoncé donc mardi dernier avoir reçu un capital investissement de la part de Tencent sur la base d'un partenariat. L'indépendance du studio n'est pas du tout en danger, hein, c'est ce qui est déclaré officiellement, et ça permettra à Platinum Games, qui depuis longtemps, au-delà des jeux de commande, aussi bon soit-il pour certains, veut publier ses projets perso en toute indépendance. Platinum a déclaré, à travers la voix de son PDG Kinichi Sato, je cite, « Nous espérons que ce partenariat nous offre une perspective plus globale, tout en continuant de concevoir des jeux de grande qualité qui font honneur à notre nom. » On rappelle que les partenariats entre Platinum Games hein, et d'autres boîtes sont assez nombreux. Donc, aujourd'hui, nous rappelle GK, Platinum est au boulot sur Babylon's Fall, hein, qui s'est dévoilé le mois dernier, sur Bayonetta 3, dont on attend des nouvelles incessamment sous peu, et on sait, et ça me fait plaisir, qu'ils sont en train de bosser sur les 10 ans de Nier. J'espère avoir de grosses annonces de ce côté-là. On nous rappelle aussi que Tencent, hein, le géant chinois, met ses billes un petit peu partout parce que Platinum Games, donc c'est le dernier nom à sa liste déjà assez grande. Mais il faut rappeler que Tencent est déjà actionnaire majoritaire de Riot Games, de Supercell, de Grinding Gear, de Shark Mob, et que ce géant est également présent dans le capital d'Epic Games à 40%, d'Ubisoft à 5%, d'Activision Blizzard 5%. Bref, pour citer là les plus connus, mais la liste est assez longue. On va passer du côté de chez Nintendo, c'est GameWave.fr qui relève ça, qui relève quoi ? Que la Nintendo Switch a été élue comme l'un des pires produits de l'année, donc de l'année 2019, hein, par 60 millions de consommateurs. Oui, le magazine a partagé une liste des pires entreprises de l'année 2019, nous dit-on, et Nintendo, par l'intermédiaire de sa console hybride, en fait partie. Si de nombreux classements font l'éloge de certains produits, d'autres en revanche pointent du doigt les mauvais élèves, et donc selon 60 millions de consommateurs, qui publient à chaque fin d'année ses cactus de la conso, le palmarès des moins bonnes entreprises, la Nintendo Switch est jugée trop fragile, la faute donc au Joy-Con, hein, le fameux Joy-Con Drift, je vous en ai parlé très souvent, hein, moi ça m'a rendu complètement dingo cette histoire, et je peux comprendre, voilà, ce jugement assez sévère, donc en espérant que Nintendo rectifie le tir, que ce soit au niveau de la com, que ce soit au niveau du service après-vente et au niveau des prochains modèles. Il faut vraiment que ça change parce que ce n'est plus possible, ce Joy-Con Drift, c'est une catastrophe. Sega, du côté de Sega, bah Sega Games et Sega Interactive fusionnent pour une meilleure organisation, c'est jeuxvideo.com qui nous parle de cela et qui nous dit donc que Sega Games et Sega Interactive décident d'unir leurs forces pour ne former qu'un et se focaliser sur les meilleures opportunités du marché. En avril 2020, donc ça arrive très vite, hein, les deux entités fusionneront pour devenir Sega Corporation ou tout simplement Sega. Voilà, un changement d'organisation décidé la veille de Noël par les membres du conseil d'administration, c'est ce qu'on nous explique. Toshihiro Nagoshi, l'un de mes héros, le papa de la saga Yakuza, et dernièrement The Judgment, qui est l'un des GOTY de ma vie. Si vous me suivez sur Twitter, vous savez que je suis totalement amoureux de ce jeu. Toshihiro Nagoshi donc prendra la charge de cette organisation en tant que Chief Creative Officer. C'est mérité totalement. Cette fusion n'engendrera aucune conséquence pour le grand public, nous expliquons, sinon une meilleure gestion des ressources en interne. Les deux branches souhaitent se focaliser ensemble sur de nouveaux projets tels que le cloud et la 5G. Une manière surtout d'exploiter au mieux, nous dit jeuxvideo.com, les travaux en recherche et développement qui s'axeront probablement sur les productions PC et consoles dans les prochains mois. Vous le savez aussi, Untitled Goose Games, hein, un jeu que j'adore avec cette voix absolument tordante, et un jeu qui ne l'est pas moins, a dépassé le million de ventes. Oui, c'est Actu Gaming qui relate cet exploit. Sorti en septembre dernier, hein, Untitled Goose Game est un véritable petit succès. Le jeu indépendant de House House fait encore mieux, il vient de franchir le million de ventes, toutes plateformes confondues, une réelle petite prouesse pour ce titre complètement déluré. Donc le million est atteint. Alors on nous rappelle que le jeu est paru sur PC en premier lieu, c'est là que je l'ai acheté, hein. J'ai craqué via l'Epic Game Store. Il est sorti sur Switch le 20 septembre dernier et il est arrivé là récemment sur PS4 et Xbox One le 17 décembre dernier plus précisément. Donc un grand bravo au studio derrière ce jeu que je vous conseille vraiment vraiment de faire, c'est que du bonheur. Enfin, on va parler de Mother 4, oui, le fan game Mother 4, hein, le Mother 4 créé par des fans, et ben se renomme Oddity et s'offre même un trailer. C'est Millennium qui a mis en avant cette news-là. On nous explique que dans les tuyaux depuis de nombreuses années, le fangame donc Mother 4 vit toujours et nous donne de ses nouvelles en s'offrant un second baptême du coup. Donc il faudra l'appeler tout simplement Oddity. La série Mother n'est pas forcément très connue par le public francophone, nous rappelle-t-on. C'est peut-être le cas pour certaines et certains d'entre vous. Même si tout le monde connaît le personnage de Ness, N-E-2-S, hein, dans la saga Smash Bros. Donc c'est une licence de RPG très connu, on a eu le deuxième épisode sous le nom d'Earthbound sur Super NES, etc. Donc Earthbound qu'on peut retrouver d'ailleurs dans la sélection de la Super NES Mini, Donc des années après le début du projet de ce Mother 4, ce fan game non officiel, l'équipe en charge du projet revient avec un nouveau trailer. Le jeu est renommé donc Oddity. Et pour la date de sortie, on n'a pas encore donc de précision, ni sur les plateformes. Il faudra attendre, mais pour les fans de Mother, pour les fans de ce type de RPG, et ben c'est quand même une bonne nouvelle, hein ? Le sondage de la semaine, donc, c'est un peu particulier parce qu'on va partir sur un nouveau cycle là, pour 2020. Donc c'est un sondage là que j'ai posté sur la communication autour de la PlayStation 5 et plus précisément sur le relais qu'effectuent les médias, les journalistes JV, mais aussi les influenceurs à nous inonder de PS5, voilà. Que ce soit la course au clic sur les sites d'actu, que ce soit la course aux vues sur YouTube et ailleurs, je vous demande tout simplement si on n'en fait pas trop autour de la PlayStation 5. On débrief ça dans la prochaine émission, la semaine prochaine. Donc, j'ai ma petite idée, mais je vous en parlerai, bien sûr, quand on débriefera tout ça la prochaine fois. Donc, n'hésitez pas à aller répondre au sondage. Je rappelle que tous les sondages sont sur le compte Twitter de la revue de presse JV. @revuedepressejv, tout collé, vous ne le savez que trop bien. Allez-y, partagez, répondez. Hein, le sondage est épinglé sur le fil Twitter chaque semaine. Donc je vous attends, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, et puis on en reparle donc la semaine prochaine. Psychologie et jeux vidéo, le cerveau au service du game design. Alors c'est un papier que j'avais remarqué sur jeuxvideo.com hein, fin décembre, et j'avais envie de vous en parler, effectivement avec tous les petits rebondissements qu'il y a eu là ces dernières semaines. Je vous en parle une semaine ou deux plus tard, mais mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Un papier donc qui nous dit que le cerveau est un organe complexe, hein, le papier nous précise à juste titre hein, que ce n'est pas un secret. De nombreux processus donc entrent en action lorsqu'on joue à un jeu vidéo. Aujourd'hui, nous dit le papier, il est courant que les médias généralistes hurlent au scandale en parlant de notre média préféré. Les jeux vidéo abrutissent, rendent accro, hein, on nous rappelle que le thème de l'addiction est servi à toutes les sauces hein, depuis que l'OMS a reconnu l'addiction vidéoludique comme une maladie, et ça rejoindra le deuxième sujet de l'émission. Bref, on dit que les jeux vidéo rendent asocial et j'en passe. De plus en plus d'études paraissent autour des effets des écrans et des jeux vidéo sur le cerveau humain, et nombre d'entre elles sont mal interprétées et souffrent de problèmes de méthodologie. Les échantillons en effet hein, de personnes testées sont trop petits, les scientifiques ne sont pas d'accord sur la définition que l'on donne au mot addiction, ou encore les journalistes tirent des conclusions hâtives à partir des résultats obtenus. Jusque-là, on est d'accord à 1000%, je pense que vous l'êtes aussi peut-être à 2-3 nuances près, mais globalement, on est quand même d'accord. Bon, combien de fois a-t-on vu des présentateurs tenter de faire de l'audimat en plaçant les mots addiction et jeux vidéo dans la bouche de scientifiques qui tentaient d'expliquer les résultats de leurs recherches ? De nombreuses fois, hein, effectivement, sans parler de nombreuses fois également où ils déforment leurs propos. Il y a eu le succès de Fortnite, hein, nous rappelle ce papier de JV.com, papier d'ailleurs signé Baldock, hein, je tiens à le préciser. Bref, le succès de Fortnite est aussi passé par là, ça inquiète certains parents, c'est cyclique, hein. Voilà, on a eu la vague des MMO, il y a les free-to-play, voilà, il y a Fortnite, etc., etc. Le jeu vidéo est un média qu'ils ne comprennent pas ou mal, en tout cas pour certains. Les articles, reportages et vidéos dépeignant le jeu vidéo comme un objet optimisé pour hypnotiser et conditionner les joueurs n'aident pas, même si là il y a un peu de vrai sur certains jeux. Pareil, hein, je vous renvoie au deuxième sujet de l'émission. Un peu plus loin, ce même article nous dit que justement tous les papiers sur le sujet hein, de la stimulation des circuits dopaminergiques, hein, donc qui créent la dopamine, sont de grossières simplifications ou tout simplement faux. Hein, c'est ce qu'affirme ce papier de JV.com qui nous dit que bien que certaines mécaniques de jeu ou éléments de game design puissent en effet entraîner la production de dopamine chez le joueur, ça ne le transformera pas en esclave pavlovien. D'après Yann Leroux, qu'on a souvent cité dans cette émission également, hein, qui est donc un psychologue dans le domaine des game studies, hein, les sciences du jeu, la dopamine générée lors d'une partie de jeu vidéo est anecdotique en comparaison de la prise de drogue, hein, l'alcool, etc. Et effectivement, cette comparaison est souvent faite, et ce qui nous renvoie encore, oui, je radote, mais vous savez, à 43 ans, on peut le faire, ça nous renvoie au deuxième sujet tout à l'heure de l'émission qui parle d'un fameux livret qui a fait râler beaucoup de gamers. Bon, le rôle des psychologues n'est donc pas de créer une armée de joueurs zombies décérébrés, tout ceci est bien plus complexe que cela, nous dit Baldock. Alors non, dit-il, le rôle des psychologues du jeu vidéo est d'expliquer aux développeurs comment fonctionne le cerveau d'un être humain afin d'éviter des erreurs de game design irréparables. Célia Audan, un psychologue qui travaille depuis maintenant plus de 10 ans auprès de grands studios comme Epic Games ou Ubisoft, pour ne citer que ceux-ci, explique par exemple que son rôle est de pousser les développeurs à prendre du recul par rapport à leur jeu. Elle s'intéresse donc d'abord au cerveau des développeurs et non à celui des joueurs. La première cause des bad moves en game design provient de ce qu'on appelle des biais cognitifs chez les développeurs. Quand on parle de cognition, nous dit l'article, on parle de la manière dont le cerveau traite ce qu'il perçoit. Un biais cognitif, c'est donc une sorte de distorsion ou d'erreur dans la manière d'interpréter ce que l'on perçoit. Donc la première source de maladresse de game design, c'est le biais de connaissance. On nous dit qu'en effet que beaucoup de développeurs ont toujours le nez plongé dans leur jeu et le connaissent donc très très bien. Ils savent quoi faire et où regarder. Du coup, toutes leurs décisions leur paraissent couler de source et il n'est pas rare d'essayer de guider le joueur en mettant un bouton en surbrillance, une couleur spécifique sur le chemin à suivre ou en jouant sur la luminosité pour attirer l'attention sur un objet précis. Cependant, encore une fois, les développeurs savent quoi chercher à l'écran. Donc il arrive donc parfois que ce qui paraît évident pour eux ne le soit pas pour les joueurs. C'est marrant parce que humblement, à mon petit niveau de game designer, depuis peu de temps, je me fais souvent cette réflexion-là aussi. Bref, les psychologues du jeu vidéo donc s'intéressent naturellement aussi au cerveau des joueurs et pas que des développeurs, bien évidemment. L'une des premières choses à laquelle ils se sont intéressés, ce sont les didacticiels. Comment faire pour s'assurer que le joueur comprenne ce qu'il doit faire et retienne la manière de le faire. Donc on nous rappelle qu'au début du jeu vidéo, les informations se trouvaient dans un manuel, les touches étaient expliquées aux joueurs hors contexte, ce qui rendait les jeux peu accessibles. Depuis, vous le savez, ça s'est grandement amélioré. Les tutoriels ont été intégrés au jeu, d'abord placés en début de jeu de manière complètement séparée de l'histoire, et aujourd'hui ils sont vraiment fondus dans le jeu. D'ailleurs, je vous en parle aussi souvent dans l'émission, j'aime beaucoup observer comment les développeurs, les game designers arrivent à fusionner le côté didacticiel avec l'expérience sans que le joueur s'en aperçoive. Il y a des exemples là-dessus qui sont assez intéressants. Bon, Baldock nous dit qu'il faut savoir que le cerveau n'est pas très bon pour apprendre quelque chose dans un contexte et appliquer ce qu'il vient d'apprendre dans un autre. Donc un tutoriel en début de partie, séparé de l'histoire, crée deux contextes, un tuto et une histoire. Cela complique donc l'apprentissage du joueur et tout ça ne semble pas très naturel. Alors qu'intégrer le tuto à l'histoire permet d'assurer deux choses indispensables à un apprentissage efficace, un contexte et un but. Donc l'apprentissage se fait dans un contexte. Tout d'abord, le joueur se retrouve face à un opposant bien précis et présente un but, éviter par exemple que nos molaires ne restent collés sur le bouclier de l'ennemi. Ensuite, ne reste plus au jeu qu'à répéter l'apparition de ces ennemis à intervalles réguliers pour que le concept s'imprime bien dans le cerveau du joueur. Si vous jouez à pas mal de jeux calibrés, surtout on va dire pour un public assez large, etc., c'est une méthode que vous avez pu voir, j'imagine, des dizaines et des dizaines de fois récemment. Là, je vous fais les grandes lignes du papier, il est très grand de toute façon, comme d'habitude. Hop, le lien sera dans la description de l'émission. Et donc, l'article nous dit que la répétition, c'est important puisque les développeurs doivent pallier ce que l'on appelle dans le jargon le recall déficit, c'est-à-dire le fait que le joueur aura toujours tendance à oublier les mécaniques du jeu auxquelles il n'a pas assez fréquemment fait appel. Effectivement, si vous apprenez une mécanique au début de jeu et qu'elle réapparaît, 10 chapitres plus tard, vous allez pas forcément vous en souvenir sur le moment et ça va être un peu gênant. La manière de présenter les défis ou les échecs a énormément d'importance également. Et l'être humain est par exemple, nous dit-on, plutôt mauvais pour évaluer si une situation est injuste ou non, surtout du côté des chances de réussite. Si le joueur sait qu'il a 50% de chances de réussir de confectionner une arme, par exemple, il aura l'impression que cela fonctionnera une fois sur deux. Malheureusement, les statistiques ne fonctionnent pas comme ça, nous rappelle l'auteur de ce dossier. En effet, il nous dit qu'il est possible de rater 10 tentatives de suite si l'on n'est pas en veine, même avec 50% de réussite. Étant donné que les joueurs ressentiraient cette situation comme profondément injuste, les psychologues conseilleront aux développeurs d'augmenter les probabilités à chaque tentative sans que le joueur s'en aperçoive afin d'éviter une situation fâcheuse. Il en va de même pour les échecs de la part du joueur. Bien que la frustration constitue souvent un élément de game design, nous rappelle-t-on, si elle n'est pas bien amenée, elle peut carrément desservir le plaisir de jeu. Il en existe deux types, la frustration basée sur le challenge, prenons par exemple un Dark Souls, c'est vraiment l'exemple qui revient tout de suite en tête, et donc il y a aussi la frustration basée sur le design. Cette frustration-là doit être évitée à tout prix, sauf dans le cas où elle est vraiment voulue, comme... on peut le voir dans certains types de jeux. L'auteur nous parle de Doki Doki Literature Club. Je sais un petit peu de quoi il en retourne, je n'y ai pas joué. Je ne vais pas vous spoiler, parce que bon, allègrement spoilé, voilà, si vous ne l'avez pas fait. Bref, on nous dit que ce type de frustration, donc frustration basée sur le design, hein, est souvent causée par des erreurs de la part des développeurs en matière d'ergonomie, d'équilibrage, etc. Donc effectivement, celle-ci, je vous apprends rien, est très difficilement acceptable. S'ensuit un chapitre sur le fait d'entretenir la motivation du joueur, comment faire pour qu'il reste effectivement accroché à son jeu. On nous parle par exemple de Dead Cells, hein, on nous parle de Skyrim, etc. Je vous laisserai lire ceci. En conclusion de ce papier, Baldock se demande si les psychologues sont des magiciens. Eh ben non, hein, au risque de vous décevoir, Baldock nous explique que les psychologues qui travaillent dans le milieu du jeu vidéo ne sont pas des magiciens, mais plutôt des experts en réaction humaine. Leur rôle est principalement de rendre un jeu fun et fluide, et d'éviter des erreurs de débutants en matière d'apprentissage de mécanique de jeu. Loin des préjugés que l'on peut lire dans les médias généralistes, ils étudient les rapports entre le joueur et le jeu et optimisent les interactions pour leur donner autant de valeur que possible aux yeux des utilisateurs. Baldock conclut en nous expliquant que même si ce domaine est à la mode, il est en pleine expansion. Hein. Ergonomie, étude de l'attention, de la cognition, de la mémoire ou de l'engagement, expérience joueur ou utilisabilité, les sujets auxquels les psychologues s'intéressent en matière de game design sont nombreux. Et au vu de la jeunesse de notre média préféré, ils n'ont pas fini de trouver des manières de nous divertir. Alors moi je vois ça, vous savez, je suis game designer dans une équipe très réduite, hein, je dirais en dessous des doigts de la main. Voir des psychologues comme ça épauler les game designers, bon moi ça me paraît être un autre monde bien évidemment, mais il y a beaucoup de conseils à retenir de tout cela, surtout si vous êtes apprenti game designer, pourquoi pas. Ne pas tout prendre non plus comme vérité absolue, hein, chacun fera le tri voilà, dans ce qui est dit dans ce papier, mais il y a quand même des choses intéressantes, et surtout ce genre de papier, d'habitude, moi je ne les lis pas déjà en français forcément, c'est pas toujours en français, parfois allez voir voilà, sur les publications anglo-saxonnes, mais sur jvideo.com c'est intéressant d'avoir ce type de papier, hein. Je fais une parenthèse, mais c'est vrai que souvent on a cette image de jv.com très grand public, de brasser énormément de choses voilà, qui vont générer du clic, mais j'ai remarqué quand même que depuis quelques temps, et je ne manque pas de le signaler dans l'émission, il y a quand même des papiers, hein, voilà, plus touffus, qui apparaissent très régulièrement, et je les salue pour cela. Un papier de Baldock que je vous invite à lire, et on va parler d'addiction, etc. tout à l'heure dans le deuxième sujet de l'émission. Vous aimez la revue de presse JV et vous désirez soutenir l'émission tout en obtenant de chouettes contreparties? Eh ben, il y avait une page Tipeee pour cela. Il y a toujours une page Tipeee pour cela. Et je remercie d'ailleurs tous les tipeurs vraiment de me soutenir. Merci à eux. Mais en plus du Tipeee qui reste en place, hein, si vous êtes sur Tipeee, ça ne change rien. Il est en place, ça ne bougera pas. Mais en plus du Tipeee, il y a maintenant aussi un Patreon. Le Tipeee n'est plus seul, il a un camarade. Donc c'est patreon.com/la revue de presse JV, tout collé. Vous pouvez me soutenir via Patreon, comme vous pouvez me soutenir donc sur Tipeee. tipeee.com/la revue de presse JV. Vous le savez, donc ça vous donne maintenant deux moyens pour me soutenir. Les contreparties sont les mêmes, les paliers sont les mêmes. Les contreparties, donc, je les rappelle, hein, c'est avoir accès en avance au sommaire de l'émission et de ses modifications tout au long de la semaine. Donc ça, sur la page Tipeee et sur la page Patreon, maintenant, vous avez accès à cela. C'est-à-dire qu'au fil des jours, vous pouvez voir vraiment l'émission, le chemin de fer de l'émission, le sommaire se construire avec ses modifications, etc. Vous avez donc la possibilité d'avoir accès donc, à toutes les news, hein, de l'émission. Chaque mois, je fais un point sur l'audience, par exemple. Parfois, je vous fais des petits billets, etc. Donc ça, c'est que pour les tipeurs et pour les Patreons. Aussi maintenant, désormais. Vous avez la possibilité donc de proposer des sujets pour la brochette de news, des coups de gueule, des coups de cœur, vous le savez. Et vous avez aussi la possibilité de participer à la grande revue de presse JV ou de chez vous, tranquillement, avec votre micro, votre connexion internet. Vous pouvez participer donc à cette grande émission à mes côtés. Voilà, donc désormais, il y a le Tipeee, il y a aussi le Patreon. Donc si vous voulez me soutenir, je vous en remercie vraiment grandement. Et je fais 1000 bisous vraiment à ceux sur Tipeee et au futur sur Patreon, de me soutenir, car vraiment, cet engagement que vous avez envers l'émission, c'est vraiment ce qui me donne la patate de n'avoir aucun jour de repos, finalement, car je fais l'émission, vous le savez, le week-end, et certains soirs de semaine, en plus de mon boulot, et au-delà du type, de l'aspect financier, c'est vraiment cet engagement que vous avez envers l'émission, bah, ça me touche vraiment toujours beaucoup. Bref, Cette semaine, donc un coup de cœur de HXC qui nous dit « Hola toutes et tous, ça faisait longtemps, content de te relire HXC ». Il nous dit gros coup de cœur pour ce superbe reportage sur la masculinité dans le jeu vidéo sur la chaîne Game Spectrum. Alors Game Spectrum, c'est une chaîne YouTube que j'aime énormément. J'ai pas vu le dernier doc, le dernier sujet sur la masculinité dans le jeu vidéo. J'en ai entendu le plus grand bien, donc je n'ai pas eu le temps de le voir HXC. Je vais me jeter dessus dès que j'aurai le temps. Mais j'invite vraiment tout le monde à aller voir la chaîne Game Spectrum, qui est une chaîne vraiment de très très grande qualité. Bibarjack, ex SeeWeeDidJu, hein, commence à le connaître. Lui, c'est un coup de gueule. Donc il nous part d'un joueur Twitch qui a détourné de l'argent pour des associations caritatives. Il nous dit non seulement c'est une attaque à l'encontre des gens qui ont donné, des associations qui auraient dû recevoir, mais aussi une attaque à toutes les personnes honnêtes qui voudront faire les lives caritatifs. Les gens seront méfiants et donneront moins. On ne touche pas à l'argent des associations. Alors, je suis totalement d'accord avec toi. S'il s'avère que c'est vrai, c'est totalement scandaleux. Il y a eu un papier du Monde. Alors, je ne vais pas développer parce qu'on est dans les coups de gueule et coups de cœur. Hein. C'est pas une rubrique qui dure très longtemps. Mais donc j'ai trouvé un papier du Monde parce que je me suis renseigné. Apparemment, le streamer s'appelle Anis13K. Bon, je ne connais pas du tout. Et visiblement, d'après Le Monde, toujours, il détournait de l'argent de ses appels aux dons sur Twitch. Visiblement, il organisait des marathons caritatifs au profit de la lutte contre la sclérose en plaques et garder l'argent pour lui. Et un collectif de spectateurs dit avoir porté plainte. Voilà, donc ça, c'est ce que rapporte Le Monde. Il me semble que le streamer a fait une sorte de mea culpa, a expliqué pourquoi il avait agi ainsi. Je n'irai pas plus loin, j'ai pas eu le temps de creuser plus loin, mais j'ai appris cette affaire grâce à ton coup de gueule, Bibarjack. J'avais pas vu l'info passer, en espérant que ça ne porte pas préjudice aux autres œuvres caritatives. Nous, à notre petit niveau avec le Marathon Cast, à plus gros niveau comme les e-events, etc., en espérant que voilà, ça ne refroidisse pas les gens à se battre et à donner pour des belles causes. Pour le jeu de cette semaine, j'ai longuement hésité, effectivement. D'ailleurs, je me pose plein de questions sur la rubrique jeu de la semaine. Vous n'hésitez pas à m'en parler sur le Discord, sur le Twitter, sur le Facebook de l'émission. Parfois, il n'y a pas forcément une sortie événement, et je ne veux pas non plus forcément couvrir les plus gros jeux. Parfois, des jeux un peu plus confidentiels, mais qui sont très importants, qu'il faut mettre en avant. J'ai envie d'en parler, mais là aussi, dans cette catégorie, il n'y a pas forcément toujours matière chaque semaine. Donc, j'ai envie de faire de la rubrique jeu de la semaine une rubrique qui ne serait plus régulière. Je me suis beaucoup posé la question, vous m'en parlerez, vous me donnerez votre avis. C'est une rubrique que j'aime beaucoup, mais il faut que le jeu, qu'il soit indé, que ce soit un blockbuster, un double A, etc., il faut qu'il éveille un minimum d'intérêt, chez moi déjà, et puis chez vous. Vous savez qu'il y a des périodes creuses dans les sorties, donc je me pose des questions. Mais cette semaine, je voulais vous parler de Watam. Watam, qu'est-ce que c'est? Alors, Pipo Mantis sur Gamecult nous en parle très bien. Il nous dit que c'est un jeu qui a été initialement annoncé en décembre 2014 à l'occasion de la PlayStation Experience. 2014, hein, ça remonte à loin. Watam a enfin achevé son long développement et se retrouve entre nos mains. Donc, il est sorti là au mois de décembre. Après un hiatus de 6 ans, 10 même, hein, nous dit Pipo Mantis, hein, si l'on compte Nobi Boy comme son dernier jeu, c'est le grand retour aux affaires donc de Keita Takahashi, le rêveur un peu dingo qui avait créé, il y a 15 ans de cela, le merveilleux Katamari Damacy. Donc là déjà, vous commencez à resituer la personne, Katamari Damacy, ce jeu où vous devez reconstituer des planètes en ramassant avec une sphère divers éléments qui grossit. D'ailleurs, dans la dernière grande revue de presse JV qui est en ligne là, hein, qui est en ligne depuis quelques jours, on parle des remakes avec des tipeurs, des contributeurs de l'amour. Mopral, que vous commencez aussi hein, à bien connaître, nous en parle. Donc je vous renvoie à la grande revue de presse JV, n'oubliez pas la 13e qui est en ligne. Bref, Keita Takahashi, donc l'auteur de Katari Damacy, revient donc avec Watam. Et Watam, Pipo Mantis nous l'explique toujours, c'est faire le tour des habitants malheureux et chercher comment, à l'aide d'autres citoyens, régler tout cela et instaurer l'harmonie la plus douce possible dans le monde. Donc il s'agira de trouver le bon personnage pour la bonne action, afin de débloquer une scénette mignonne et la suite de l'aventure, qui visiblement est assez quand même linéaire. On vous demandera, par exemple, nous dit le journaliste de Gamecult, d'empiler des objets pour atteindre la taille d'une quille de bowling, de retrouver le combiné de Madame Téléphone, bien triste depuis qu'elle ne peut plus recevoir d'appel, ou encore amener un oignon coupé à des yeux pour les faire pleurer et monter le niveau de l'eau. Plein de petites choses comme ça rigolotes, toujours dans son design très caractéristique, hein, très, très coloré, complètement décalé. Donc j'avais envie de vous en parler, puisque j'ai l'impression que Watam est vraiment passé complètement à l'as avec cette actu florissante hein, de la fin de l'année et là du début d'année. Et c'est un jeu que j'ai envie de faire, voilà, j'ai pas encore eu le temps, et donc j'avais envie de vous en parler. Donc Watam, je vais faire très vite, puisque puisque j'ai bien conscience que c'est un jeu qui ne rassemble pas forcément. Donc, du côté des Inrock, Erwan Nguyen nous dit « Il y en a des choses à voir et à faire dans ce jeu merveilleux. Et si, sans doute parce que son créateur ne s'interdit pas grand-chose, le jeu se révèle une mine d'idées originales qui lui permettent de se renouveler constamment, l'envie se révèle aussi forte de refaire des choses dont on a déjà bien profité, comme de prendre nos curieux copains par la main et de se relancer dans une ronde endiablée aux allures de célébration de la beauté et de l'instant et de la chance que... tout bien pesé, on a d'exister. Avec Watam et ses surprises toujours plus belles, c'est déjà Noël. Oui, parce que le jeu est sorti au mois de décembre. Donc on revient sur Pipo Mantis, sur Gamecult, qui lui met 6 sur 10. Hein. Il nous dit que donc Watam est un objet à part, comme on pouvait s'en douter de la part du créateur de Katamari Damacy. Une comptine pour enfants qui durerait 5 heures, un Thomas Was Alone qui aurait compris quoi faire de ses formes, un Doodle God en 3D, et même de temps en temps, tout cela à la fois. Aussi singulier qu'intendrissant, Watam ne plaira pas à tout le monde, loin de là. Les tristes cires n'y verront qu'une panouille d'un développeur sur le retour, alors que les grands enfants, ou les grands accompagnés de leurs enfants, plongeront tête la première dans ce grand coffre à jouets contemplatif et gazouillé, pour en ressortir béat et peut-être même un peu sonné. Bon, vous voyez, je pense que c'est un jeu qui va vraiment diviser, soit on aime ou on n'aime pas. Hein. Du côté de la presse étrangère, PlayStation Lifestyle lui met 90 sur 100, rafraîchissant, léger et plein de bonnes vibrations, Watam est le genre de jeu avec lequel tout le monde peut facilement se mettre à l'aise. C'est une expérience magique centrée sur l'amitié et la connexion qui permet de découvrir comment chaque compétence unique peut aider tout le monde, même si elles sont de taille, de forme et de couleurs différentes. Il y a une joie simple qui vient du fait de jouer à Watam, un sentiment que beaucoup d'autres jeux ne peuvent pas égaler, carrément. Gaming Bible lui met 8 sur 10 et nous dit « En fin de compte, Watam est vraiment un jeu à part, une continuation évidente de l'esprit créatif de son créateur, étant donné ce qu'il a fait auparavant, mais aussi tout à fait différent. Il suit sa propre logique, ludique, hein, offrant des instructions claires et ne cédant jamais au surréalisme pour le plaisir. Et est absolument une expérience plus enrichissante qu'il n'y paraît. Bon, c'est très sympa. Dark Station lui a mis 4 étoiles sur 5. Il nous dit une magnifique bande-son et un style visuel simple mais attrayant donne le ton à Watam. Bien que ce soit un jeu simple et direct, pendant mon temps avec lui, j'ai presque constamment eu un énorme sourire sur mon visage. La marque de bizarrerie de Takahashi fonctionne pour moi et même toutes ces années après Katamari, c'est toujours le cas. Si son style vous convient, je pense que vous passerez un bon moment avec Watam. Cela ne durera pas très longtemps, mais c'est un moment qui restera avec vous et qui mérite d'être célébré. Metro Game Central, pour finir, lui a un peu moins aimé, il a mis 50 sur 100, et nous dit « Aussi charmant et singulier qu'on pouvait s'y attendre de la part du créateur de Katamari Damacy, mais bien que le message harmonieux soit clair, le jeu lui-même est une corvée frustrante. » Vous voyez, ça divise vraiment, et j'avais envie de vous en parler. Il n'y a pas trop de critiques françaises, parce qu'il n'y a pas eu tant que ça, et je voulais vous en parler. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous pensez sur le fait que le jeu de la semaine vienne vraiment quand l'actu des sorties mérite qu'on s'y attarde. N'hésitez pas à faire part de tout ça, et puis on passe à la suite de l'émission, quoi qu'il arrive, n'est-ce pas ? Voilà. Si cette émission vous plaît, n'hésitez pas à en causer autour de vous, à partager un max sur les réseaux sociaux, c'est vraiment super important. Un commentaire, une question ou juste une envie de tailler le bout de gras avec votre serviteur et les autres auditeurs, eh ben c'est simple, il y a le compte Twitter de l'émission, @revuedepressejv, tout collé. Il y a aussi la page Facebook, hein, vous tapez simplement Revue de Presse JV et bim, vous tombez dessus. Sinon, l'émission a un superbe Discord abritant une non moins superbe communauté. Tous les liens, de toute façon, sont en description de cet épisode. Je rappelle que toutes les éditions sont dispo H24 sur iTunes, Deezer, Spotify, YouTube et sur quasiment toutes les applis de podcast, sans oublier la web radio Play Geek, hein, où l'émission est diffusée chaque mercredi. Bref, je suis partout. Oui, c'en est presque flippant. Les gamers sont colère, les gamers ont râlé, les gamers ont mordu des mollets, oui. Pourquoi cela ? Eh bien, tout cela à cause d'un petit livret. Une campagne de prévention, plus précisément auprès des jeunes. Un livret né du partenariat de la mission interministérielle de la lutte contre les drogues et les conduites addictives. Attention, ça ne rigole pas, hein, c'est le gouvernement. Hein, avec les éditions Bayard Jeunesse, hein, donc qui publie un petit livret, intitulé « Jeux vidéo, alcool, tabac, je dis non aux addictions ». Alors là, on tremblote, les parents ont les fesses qui font bravo, on se met tous à paniquer puisque les jeux vidéo vont détruire nos enfants, ni plus ni moins. Bon, La couverture de ce livret, tout d'abord, a fait beaucoup parler, puisqu'on y voit trois enfants ados. Le livret, nous dit-on, est destiné aux 10, 13 ans et à leurs parents. Un petit livret de 16 pages, d'ailleurs, entre parenthèses, distribué à 1,5 million de lecteurs d'Image Doc et J'aime lire. Hein, donc, ça, c'est chez Bayard Jeunesse. D'où le partenariat. Cette couverture, on voit en gros, en haut, jeux vidéo en premier, alcool, tabac en dessous, je dis non aux addictions. Donc, il y a eu deux phases avec ce livret, puisque je ne me suis pas arrêté juste à la couverture, et c'est vrai qu'elle a fait râler beaucoup de monde sur les réseaux sociaux et ailleurs, à juste titre. Moi, cette couverture m'a profondément scandalisé, puisque là, ni plus ni moins, on voit le jeu vidéo mis au même niveau que l'alcool et le tabac, jeu vidéo même en premier. Donc là, on se dit, qu'est-ce que c'est que cette mascarade ? Serait-ce une parodie ? Non, mes amis, ce n'est pas une parodie. Donc ce qui m'a profondément choqué dans un premier lieu, c'est l'accroche. Voilà, l'accroche me choque, puisque là on comprend tout de suite, ça clignote en rouge, jeu vidéo égale danger. Bon, quand on lit le livret, parce qu'il faut le lire, faut pas s'arrêter à la couverture, c'est un peu plus nuancé que cela. Je vais d'abord vous lire les passages qui sont liés aux jeux vidéo. J'ai le livret devant moi. Voilà, ce que vous pouvez, tout à chacun, hein, on peut tous aller le voir. Il y a le PDF hein, qui est en ligne sur le site drogue.gouv.fr. Bon, voilà, hein, on a peur, on tremblote. Donc on nous dit, ce petit livre va te présenter des situations en rapport avec les jeux vidéo, l'alcool et le tabac. Les usages en sont très différents, mais leur point commun, c'est qu'ils peuvent entraîner une dépendance. On ne peut plus s'en passer pour se sentir bien. Cela s'appelle une addiction. Alors, il y a une petite BD qui s'appelle Un jeu très prenant, où on voit un enfant voilà, qui fait semblant de faire ses devoirs, et en fait, il est en train de jouer donc, sur son smartphone, hein, visiblement, et voilà, ses parents lui demandent de venir à table, il traîne, parce que voilà, il va absolument passer au niveau supérieur, ses parents lui disent que ses résultats scolaires ont baissé, on lui reproche de passer trop de temps sur son smartphone, etc. On nous dit, là je cite le livret, « Contrairement à un jeu de société ou un match de basket, certains jeux vidéo, alors on précise certains, c'est déjà pas mal, certains jeux vidéo sur ordinateur, console ou smartphone n'ont pas de fin. Tout est fait pour que tu y joues le plus longtemps possible. Gagner un niveau ou remplir des missions t'apporte de nouvelles options, faire évoluer ton personnage, etc. Résultat, tu pourrais continuer indéfiniment. Avec ces activités sans limite, c'est à toi de décider de mettre fin à une partie. Or, si tu joues trop longtemps, le plaisir de jouer risque de mal se terminer. Au lieu d'être une source de détente, le jeu devient une source d'énervement, d'épuisement et d'isolement. Et si tes parents doivent en venir à t'imposer d'arrêter, cela peut virer à la dispute. Pour éviter que jouer ne se transforme en une expérience désagréable, décide par avance de limites en accord avec ton entourage. Prends le temps de discuter avec tes parents pour déterminer une durée de jeu maximale. Une fois le temps écoulé, prévoyez de partager une chouette activité. Jouer à un jeu vidéo doit rester un plaisir. Et là, il y a un petit avis aux parents. Établir avec votre enfant les conditions d'utilisation des jeux vidéo, durée limitée, moment autorisé, etc., l'aidera à jouer sans abus. Partager ce temps de jeu avec lui et permettre à l'enfant de s'approprier ces règles facilitera des échanges entre vous à d'autres moments. Là, moi, je suis papa d'un enfant qui va avoir 10 ans. Moi, ce qui me choque, en fait, dans ce livret, c'est qu'effectivement, c'est à l'image de la couverture, c'est que là, le jeu vidéo est un chapitre parmi d'autres, donc qui parle d'alcool et de tabac. Moi, c'est le fait de les mettre au même niveau qui me choque profondément. Donc pour moi, il y a un problème grave sur cette couverture. Il y a un problème grave sur la communication, sur le fait de mélanger jeux vidéo, alcool et tabac. Ça, ça me scandalise profondément, surtout qu'il y a eu l'histoire donc, avec l'OMS, vous le savez. Et tout ça, eh ben, pour certains parents qui n'y connaissent rien, parce que ce n'est pas que générationnel, hein, ça je l'ai souvent répété dans l'émission aussi, c'est que moi j'en connais qui sont même plus jeunes que moi, hein, qui peuvent avoir 35 ans par exemple, qui sont parents et qui voient le jeu vidéo comme le mal absolu. C'est pas parce que nous sommes de la génération, on va dire, Super NES, Mega Drive, voire... PlayStation, que fatalement tous ceux qui sont nés à la même période que nous ont cette culture JV ou tout du moins savent que le jeu vidéo, bah voilà, c'est un média formidable, etc., qu'il n'y a pas de soucis. Bon, tout le monde n'est pas censé le savoir, hein. Et donc, ça envoie un message hyper négatif sur le JV et c'est ça qui me gêne profondément. Maintenant, ce qui est dit dans ce livret sur les jeux vidéo, pour moi, est à 90% vrai. Le problème de l'addiction existe, il ne faut pas botter en touche là-dessus. C'est juste que traiter l'addiction du jeu vidéo n'a pas pour moi sa place avec l'alcool et le tabac. Je rappelle que l'addiction donc existe, bien évidemment, il y a des gros soucis, hein, ça plonge les familles parfois dans certains drames. Il ne faut pas oublier le rôle des parents qui est très 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 important, hein, le rôle des parents est central, il faut mettre des limites. Surtout que c'est beaucoup lié aux smartphones et aux tablettes, hein, qui sont toujours connectés. Hein, on aurait pu parler des réseaux sociaux, on aurait pu parler de pas mal de choses comme ceci, sur le tout connecté, tout ceci est quand même lié. Et je rappelle que pour qu'il y ait addiction, il faut qu'il y ait un terreau favorable. Quelqu'un qui a envie de se... Un enfant, un adolescent qui a envie de se replier sur lui-même, vraiment à en devenir asocial, à ne plus travailler à l'école, vraiment à s'isoler. Si c'est pas le jeu vidéo, ce sera autre chose. C'est qu'il y a un terreau déjà qui est favorable, un terreau psychologique. Cela cache une souffrance, un malaise. Si c'est pas le jeu vidéo, ce sera autre chose. Maintenant, effectivement, sur ce qui est dit, le fait que certains jeux vidéo sur ordinateur, console ou smartphone n'ont pas de fin et que jouer à un jeu vidéo doit rester un plaisir, comme je l'ai tweeté là il y a quelques jours. J'ai l'impression de m'entendre quand je parle à mon fils. Si vous suivez un petit peu le Twitter, vous savez que mon fiston aime vraiment le jeu vidéo, vraiment dans toute sa vastitude. Il aime énormément les titres 8 et 16 bits, il aime beaucoup les jeux indés, il adore les jeux Nintendo, etc., les jeux d'arcade, j'en passe, et des meilleurs. Et avec l'influence des copains à l'école, c'est vrai qu'il a... Il aime les free-to-play, il a beaucoup joué à Brawl Stars, là il joue souvent à Clash of Clans, Clash Royale, etc. Bon. Et il y a une période avec Brawl Stars, c'est le premier free-to-play qu'il a essayé, où je voyais que ça commençait vraiment à l'obséder, et que quand il perdait une partie, ça vous fait perdre des trophées, ça vous fait baisser vos stats, ça commençait à le stresser. Bon. Et une fois, ça l'a carrément fait pleurer. Alors, vous le savez, il est autiste, alors il a déjà une sensibilité à fleur de peau, il réagit avec plus d'intensité qu'un non-autiste. Et un jour, ça l'a fait carrément pleurer. Et là, j'ai mis le holà tout de suite. Voilà, j'ai mis le holà tout de suite, on a eu une discussion, voilà, le jeu doit rester un plaisir, et que si ça doit le faire pleurer, bah, il jouera à autre chose. Et d'ailleurs, si je me souviens, je l'avais privé donc, de Brawl Stars pendant peut-être une journée ou deux, et les sessions suivantes, c'était qu'à des heures calibrées, beaucoup moins longues, voilà. Et maintenant, ça se passe mieux, le jeu sur smartphone, c'est ma tablette que je lui prête, là, doit lui prendre vraiment 5% de son temps de jeu. Là, il est beaucoup plus sur Switch et sur 3DS, mais toujours dans des plages de jeu qu'on choisit. Il y a vraiment, je pense qu'il y a un juste milieu entre certains parents qui n'y connaissent rien et qui vont dire non, tu joues une heure par semaine, concrètement, voilà, une heure par semaine, on fait pas grand chose, à l'enfant qui va jouer 4 heures par jour, on peut trouver une bonne moyenne, quoi. Voilà, à partir du moment où les devoirs sont faits, qu'il y a d'autres activités qui sont faites, etc. Bon, mon exemple n'est pas forcément chacun fait un petit peu à sa sauce, et puis les parents parfaits n'existent pas, il n'y a pas de méthode. Je fais plein d'erreurs, comme vous pouvez peut-être en faire aussi. C'est pas une méthode que je vous délivre, j'ai pas cette prétention là, pas du tout, mais c'est juste voilà mon exemple personnel. Et donc il faut pas nier ce qui est dit dans ce jeu, même ce qui est dit dans ce livret, il faut pas nier, c'est vrai, c'est que vous avez ces free to play, surtout sur mobile, et certains jeux en ligne auxquels vous pouvez jouer aussi sur console ou PC, qui sont calibrés pour vous faire revenir tout le temps. Hein, les créateurs de ces free-to-play utilisent des données scientifiques sur le cerveau humain, hein, ce qui rejoint un petit peu le premier sujet, pour vraiment nous faire revenir à chaque fois. Donc c'est calibré comme ça, et ils sont faits pour ça, pour nous faire revenir, et puis in fine, voilà, nous faire aussi un peu cracher au bassinet. Donc tout ça, ça existe en fait. Tout ça, ça existe, il ne faut pas le nier. Comme je le disais, à côté de l'alcool et du tabac, c'est complètement décalé et ça envoie surtout un message terrible. Comme je le disais, on va pas revenir sur les bienfaits du jeu vidéo qui ont été maintes et maintes fois prouvés. J'en ai souvent parlé dans cette émission, à des études très sérieuses qui montrent vraiment les bienfaits du jeu vidéo. Et c'est ça qui est dommage sur ce livret, c'est que ce média incroyable qu'est le jeu vidéo, ces émotions qui nous procurent, des émotions inédites qu'on ne trouve pas dans... que nous apportent pas les autres médias, tous ces créateurs fabuleux, ces game designers, ces artistes, cette pluralité surtout dans les propositions, dans les thématiques abordées. C'est vrai que le terme jeu vidéo est un peu fourre-tout, c'est-à-dire qu'on peut y mettre un jeu indé très arty, ou un jeu très littéraire, comme on peut y mettre un blockbuster, un jeu mobile, un jeu d'aventure textuelle, un jeu expérimental. Bref, le jeu vidéo a des dizaines et des dizaines et même des milliers de facettes, quoi. Et c'est vrai que voir jeux vidéo, alcool, tabac comme ça, c'est assez triste. Et donc, pour contrecarrer un petit peu tout ça, pour en mettre une couche, parce que je ne peux pas m'en empêcher, sur les bienfaits du jeu vidéo, j'avais fait un gros post sur Twitter et sur Facebook en septembre dernier, où je parlais des bienfaits aussi du jeu vidéo, les bienfaits que ça a eu sur mon fils, hein, donc qui est autiste. Et ces jeux, justement, qui sont censés faire revenir tout le temps les jeunes, alors Fortnite et les jeux mobiles et compagnie. Je précisais d'ailleurs dans ce message que j'avais posté que certaines deviennent vraiment addictes et qu'il fallait pas se voiler la face. Cela existe et je l'ai répété encore dans cette émission, mais je voulais mettre aussi en lumière le fait que ces jeux facilitaient grandement la discussion et les interactions avec d'autres enfants. Hein, et pour un élève en situation de handicap, c'est très important. Je reprenais donc l'exemple de Brawl Stars, qui est assez connu par la jeunesse, qu'elle y jouait beaucoup. Alors maintenant, il est passé à autre chose, mais il y jouait beaucoup sur ma tablette que je lui prêtais. Et donc, plusieurs de ses copains adorent ce titre. Aussi, c'est par le biais de ses copains d'école hein, qu'il y a accédé. Et je lui avais proposé de créer un club. On peut créer des clubs dans le jeu. Il avait créé un petit club où il parlait avec ses copains, etc. Et c'était vraiment très sympa. Et c'est là l'un des pouvoirs du JV que j'aime mettre en avant et qu'on occulte très souvent. C'est un facteur de sociabilisation, d'intégration dans un groupe de copains, par exemple. Alors, il n'a pas eu besoin du jeu vidéo pour se faire ses copains, il les avait avant, mais ça maintient quand même une certaine sociabilité, et puis ça permet de se mettre aussi sur un pied d'égalité. Les autistes ont des problèmes de motricité fine, hein. Axel en a, il est un peu gauche, mais le jeu vidéo le met sur un pied d'égalité avec ses copains, c'est-à-dire il peut performer autant qu'eux, alors qu'en sport, c'est un peu plus compliqué, vous voyez. Alors, sans baigner dans le culte de la victoire à tout prix, hein, il faut être bon joueur, il faut savoir perdre aussi, ça apporte quand même une grande confiance en soi, et c'est super important. Quand il était un petit peu plus jeune, ce qui va avoir presque 10 ans, c'est vrai que le jeu vidéo, ça lui a permis de se sentir vraiment égal avec ses copains, parce qu'il pouvait jouer au jeu vidéo avec eux, et c'est vrai que bah, il se débrouille bien pour son âge, donc ça se passait très très bien, ça se passe toujours très très bien, alors qu'en sport, bah, avec ses problèmes de motricité fine, c'est un petit peu plus compliqué. Voilà, des exemples comme ça, c'est des sujets de discussion avec les potes, etc. Donc tout ça, c'est quand même des bienfaits qui sont très importants, qui sont à prendre en compte. Tout ça pour vous dire, j'ai peut-être été un petit peu trop long, mais je voulais nuancer, en fait, j'aime bien nuancer d'habitude, et ce n'est que mon avis, vous avez le droit de pas du tout être d'accord. Donc c'était l'occasion aussi de parler de cela, puisque, bon, c'est mon expérience, je suis papa d'un enfant qui a presque 10 ans, qui aime les jeux vidéo aussi, et du coup, bah, ça me permet d'avoir un point de vue. Mais c'est des sujets qui sont très importants, et c'est vrai que dès que j'ai l'occasion de parler du jeu vidéo et du fait d'être parent dans l'émission, bah, je ne m'en prive pas, bah, je trouve ça très intéressant. Voilà un petit peu, donc j'ai peut-être été un peu trop long, hein, je m'en excuse, mais c'était important de revenir sur ces points-là, et surtout, avant de crier au scandale, de nuancer surtout, c'est très important, ne nous faisons pas aussi obtus et bas du front que ceux qui attaquent le jeu vidéo comme ça, sans réfléchir, essayons d'être, voilà, prenons de la hauteur, ne nous abaissons pas au niveau de certains, essayons d'amener de la nuance, c'est pas évident de garder son calme face à ça, je suis bien d'accord. Mais comme je le dis souvent, le jeu vidéo, de toute façon, a déjà gagné. Mais voilà, c'est pas facile quand on voit ce genre de communication. C'est ainsi que se termine cette émission, la toute première de l'année 2020. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas la grande revue de presse JV sur les remakes, hein, qui est en ligne, hein, sur ce même flux. Hein, presque 2 heures de bonheur, j'ai envie de vous dire. On se retrouve donc la semaine prochaine. J'aimerais remercier à nouveau profondément les tipeurs et les patrons sur Patreon. Merci pour votre contribution. Alors, c'est un petit peu baissé, voilà, ces jours-ci, mais je peux comprendre que l'époque est compliquée. Mais en tout cas, si vous voulez soutenir toujours l'émission, je rappelle que je l'écris, je la réalise, je la monte. Bref, je fais tout ça tous les week-ends, en plus de mon boulot la semaine, bien sûr. Mais c'est toujours un bonheur, voilà. Toujours un bonheur de la faire. Et si vous voulez donc, bah, me soutenir, n'hésitez pas, il y a le Tipeee et le Patreon. J'aimerais donc remercier Crocodine, Néo Calimero, Malodélic, Pipoletsu, Seb22, Mopral, Trifon, Valentin, Siwilidju, Electrotactics, Tophobie, Fabien, Clem, Deben, Yvan Le Pierrot, Machin Truc 76, Garan, Laure, Hiromitsu, HXC, Tulkas, Bertrand Amar, Coucou mon Bertrand, Cédric, Lina Nounette, Pikachu, HL9, Nicolas, Vanifraise, X, Nili, Carnoct, Melkoc, Lutherian, Aza, Slokoane, Evolix, JP Madère et l'incontournable Monsieur A. Et je remercie aussi Gontran sur Patreon. Merci à toutes et tous pour votre fidélité partagée, kiffée. Je vous souhaite panache et robustesse pour la semaine qui arrive. Et je vous dis donc à très bientôt, pour ainsi dire à tantôt. Bye bye.